Voilà, alors bonjour à tous ceux que, toutes celles que j'aurais pas pu saluer ce matin. Et on se réjouit de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur. Et il y a quelques temps, j'ai croisé un ami, puis on a eu une discussion, parce qu'ils avaient vécu un week-end d'église avec un pasteur qu'ils avaient invité. Ils avaient eu un thème autour d'un passage d'un acte 7 que nous lirons dans un moment. Et pas tout de suite. Et ce passage-là, en fait, on en a discuté un bon moment aussi avec mon ami. Et puis, je me rappelais aussi que ce passage-là, dans Acte 7, il y a quelques temps plus loin encore en arrière, on en avait aussi partagé avec cette fois une sœur en Christ. Et il nous avait aussi beaucoup interpellé ce passage dans Acte 7. Mais, bon, les curieux, vous pouvez déjà, je vous dis pas exactement où c'est dans Acte 7, donc vous allez chercher en vain. Peut-être tout d'un coup, certains pensent à un passage précisément, peut-être vous avez pioché juste, donc suspense. Mais avant cela, on va commencer notre lecture dans Matthieu 11. Matthieu 11, les versets 2 à 11. Matthieu 11, je lis à partir du verset 2. Et le titre du message de ce matin, j'ai repris simplement un passage là dans Matthieu 11 justement. Es-tu celui qui doit venir? C'est le titre du message de ce matin. Es-tu celui qui doit venir? Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, Jean était en prison dans une situation difficile, et à ce moment-là, les doutes commencent à le ronger intérieurement. Il avait certainement le temps de ruminer dans le fond de son cachot, et on peut facilement s'imaginer que les prisons de l'époque n'étaient pas comparables à celles de nos contrées. Hein. Et la question que Jean-Baptiste retransmet via ses disciples à Jésus peut surprendre. Verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste, c'est le même, quelque temps avant, qui avait dit, en voyant Jésus venir à lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est le même. Mais comment ce Jean-Baptiste, quelque temps avant, avait pu faire une telle déclaration en disant, simplement en voyant Jésus venir à lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et puis, une fois cet homme retrouvé, mis en cachot, comment ce même homme, tout à coup, peut être pris par des doutes aussi profonds? Est-ce que cet homme, comme Jésus le déclarait dans le passage que nous venons de lire, n'était-il pas le plus grand? Verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a paru point de plus grand que Jean-Baptiste. Hein? » Quel homme, Jean-Baptiste? Et pourtant, cet homme de foi, tout à coup, le doute l'assaille. Et pourquoi Jésus ne va pas le trouver en prison aussi, face à ces questionnements? Il retransmet simplement une information à ses disciples, c'est tout. des fois, nous aussi, quand nous passons par des temps difficiles, on peut peut-être avoir l'impression que le Seigneur est loin, que le Seigneur ne se fait pas entendre, que le Seigneur ne vient pas nous visiter. Et qu'est-ce que Jésus laisse aux disciples? Quelle parole? Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La puissance de Dieu se manifeste au travers du ministère de Jésus-Christ. Les gens sont guéris, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et surtout, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici les signes qui attestent que Jésus est bien celui qui était attendu de la part d'Israël. Et Jésus aujourd'hui guérit encore, mais on peut aussi prendre toutes ces guérisons d'une manière symbolique, parce qu'il rend la vue à ceux qui ne voient pas sur quel chemin ils sont en train de marcher, dans quelle direction ils sont en train d'avancer. Jésus redonne la vue aujourd'hui encore. Il permet aux sourds d'entendre à nouveau. Ceux qui ne semblent pas vouloir écouter la parole de Dieu, tout à coup se mettent à la comprendre et à la vivre. Et il ressuscite des morts, hein. Peut-être pas, il peut ressusciter des morts physiques, mais là aussi symboliquement, on était tous morts, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, dans sa grâce, est venu nous rechercher et nous a donné son secours. Malheureusement, une grande majorité du peuple juif n'a pas reconnu le Christ comme leur Messie. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a toujours un peu cette même difficulté. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Des fois, dans certaines situations de nos vies, quand on a peut-être des directions à prendre, on peut se poser la question aussi, tiens, est-ce que Dieu est en train d'intervenir dans ma situation? Où est-ce que je dois attendre patiemment? Parce que là, le Seigneur n'est pas dans ce projet, je dois juste attendre. Alors, j'aurais une petite histoire à vous raconter, peut-être vous l'avez déjà entendue, mais là je l'ai un peu reformulée autrement, qui donne un bon exemple à ceci. Est-ce qu'on doit attendre ou est-ce que tu es là, Seigneur, tu interviens dans ma vie? Donc c'est l'histoire d'un homme, il y a beaucoup de pluie qui tombe, hein, ça ressemble un peu à la Suisse de ces derniers temps, et pour finir, toute sa région devient inondée, il doit fuir, monter sur un arbre, et puis la pluie monte, il continue à pleuvoir, la situation est vraiment terrible, et il crie à Dieu, « Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, n'oublie pas ton serviteur ». Et il monte, plus l'eau monte, plus l'homme monte sur les plus hautes branches de l'arbre. Et à un moment donné, il y a un homme qui arrive avec sa barque, un ramin, et il vient à son secours. Et l'homme, sur son arbre, de dire, « Non, j'ai pas besoin de toi, j'ai appelé mon Dieu à mon secours, il va venir. » Et l'homme, dans sa barque, incrédule, fait demi-tour et s'en va. La pluie continue à tomber durant ce moment, l'eau continue à monter. L'homme est sur la dernière branche, je sais pas si c'est en Suisse, c'est un sapin. Hein, il est sur la dernière branche du sapin, là, ça bouge un peu dans tous les sens. L'eau, il en a jusqu'au nombril ici. Et il continue à prier son Dieu pour qu'il intervienne. Et d'une manière inespérée, voici un hélicoptère de secours. Ils sont prêts à le treuiller. Et l'homme, sur sa dernière branche, qui crie de toute sa force, parce qu'il y a le bruit de la turbine, l'hélicoptère, ça fait un bruit terrible. Non, j'ai prié Dieu, il va intervenir pour sa gloire. Bon, les secours, ils ne peuvent pas forcer, hein, ils ne peuvent pas se mettre en danger non plus de prendre quelqu'un qui va se débattre là. Et puis l'hélicoptère décroche et il s'en va. Et puis ce qui devait arriver arriva, l'eau continue à monter, l'homme se retrouve dans l'eau, il nage, il s'épuise et il coule à pic. Et il se retrouve auprès de son Dieu, encore tout mouillé, Jésus l'accueille. Mais Seigneur, pourquoi es-tu pas venu à mon secours? N'ai-je pas crié à toi? Et Jésus de lui répondre, ne t'ai-je pas envoyé en premier un homme avec sa barque ? Mais tu n'as pas accepté son secours. Puis ensuite, dans ma compassion pour toi, un hélicoptère est venu pour te retirer de ta situation désespérée. Mais là encore, dans ton entêtement, tu es resté obstinément accroché à ton arbre. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Face à une nouvelle étape de vie, que celle-ci soit d'ordre professionnel, familial, personnel, ou même une nouvelle étape pour notre Église, sommes-nous disponibles à la nouveauté qui peut se retrouver sur notre chemin ? C'est peut-être justement cette nouveauté qui a mis Jean-Baptiste dans la difficulté, dans un questionnement profond. Parce qu'il y a eu le passage avec Jean-Baptiste de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et là aussi, de la nouveauté, il y en a véritablement eu. Des changements, il y en a eu, des grands. Et on peut se rappeler, les disciples étaient en difficulté des fois par rapport au comportement du Seigneur. Hein? Jésus qui s'adressait à une Samaritaine, Jésus qui allait dans la maison des péagers, des étrangers, des prostituées. Là, pour l'ancienne alliance, il y avait vraiment des choses qui étaient difficiles à comprendre pour le peuple juif. Et puis les disciples n'ont pas compris non plus que Jésus devait passer par la mort et la résurrection. Il y avait une part d'enseignement que les disciples, ils n'avaient rien capté. Et même après sa résurrection, ils n'ont pas tout de suite compris. Et même après, une fois que Jésus était remonté au ciel, il y a des choses, ça a mis du temps aussi pour entrer pleinement dans cette nouvelle alliance. Hein. Au début, ils n'ont pas compris que le salut était aussi pour les païens. Quand ils ont vu le Saint-Esprit tomber sur des non-juifs, ils ne revenaient pas. Hein. Ils ont eu des remises en question comme ça. Petit à petit, les choses ont changé. Et ils ont pu véritablement entrer dans la nouvelle alliance. Ils n'ont pas compris non plus qu'il n'y avait ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, mais que tous étaient un en Christ. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Il y a eu progressivement des prises de conscience pour le peuple de Dieu. Et Jean le Baptiste, je pense qu'il était dans cette difficulté, dans sa prison. Face à ce Jésus, Jésus était peut-être presque vu un peu comme, entre guillemets, un révolutionnaire. Hein? Il y avait tellement de choses nouvelles qui étaient en train de se passer que Jean-Baptiste, il est pris dans le doute. Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Alors, entrer dans les nouvelles choses que Dieu en réserve n'est pas forcément évident. Et même pour des hommes de foi, comme à l'exemple d'Abraham. Et cette fois, on va dans le fameux texte d'Acte 7 que je vous annonçais au début du message. Acte 7, on va lire les versets 2 à 4. Acte 7, versets 2 à 4. C'est Étienne qui se trouve devant le Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur le questionne. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors, Abraham, hein, bon, à l'époque c'était encore Abraham, mais on va rester plus facilement sur Abraham. Abraham, en effet, il a obéi une partie de l'ordre de Dieu, il a quitté son pays, il s'est mis en chemin, mais il a quitté pas sa famille. Donc il a obéi que partiellement à l'ordre. Hein, il y a son papa qui l'a suivi, il y a son père qui l'a suivi dans sa démarche. Et puis surtout, il s'est arrêté en chemin, il s'est arrêté à Charan. Il a quitté son pays, mais en chemin, il s'est arrêté à Charan. Et Charan, c'était où? C'était une ville, en fait, qui était située sur un des bras de l'Euphrate. Et c'était une ville qui était sur un des chemins qui reliait Babylone à la mer méditerranéenne. Donc, c'était certainement une ville commerciale, une ville où il faisait bon vivre, une ville où l'accueil était bon. Et peut-être, on peut s'imaginer, hein, la Bible ne nous donne pas plus de détails, mais on peut s'imaginer que là, Abraham a fait des affaires, que le père d'Abraham a peut-être fait des affaires aussi, et que plus loin, les choses devenaient plus difficiles. Parce qu'il fallait aller vers des contrées plus sèches, où il serait plus difficile peut-être de faire prospérer du bétail ou faire des affaires, parce que sur la route, il y avait peut-être beaucoup moins de passages. Hein. Donc la situation à Charan était vraiment acceptable et ça a mis Abraham en difficulté. Parce que Dieu lui disait, mais va dans le pays que je te montrerai. Mais Abraham s'est arrêté à Charan. Et qu'est-ce qu'il a fallu, quel événement s'est déroulé pour que Abraham continue sa marche? De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. C'est au moment du décès de son père, parce que peut-être son père était encore influent sur sa vie, qu'Abraham prend son courage et continue son chemin. Et le chemin, il n'a pas été facile. Hein, peut-être, vous savez, à un moment donné, là où il se trouvait, il y a eu la famine. Il a dû partir en Égypte. Et peut-être, on peut s'imaginer que les gens qui étaient autour d'Abraham disaient, mais on ferait pas mieux de retourner à Charan. On était bien là-bas au bord de l'Euphrate. Hein. Il y avait les poissons en profusion, ils étaient bons. Ah, tu te rappelles les bons grills, là, les bonnes grillades qu'on se faisait, c'était tellement merveilleux. Hein, on avait toujours de quoi manger, on a manqué de rien à Charan. Hein. Des fois, on passe dans une étape suivante pour le Seigneur, et puis les difficultés arrivent. Abraham a connu les difficultés en allant en direction du pays promis. Il a dû aller en Égypte et ça a été vu peut-être comme une fuite, comme un retour en arrière par les gens qui l'entouraient. Et des fois, les nouvelles étapes de nos vies ne sont pas toujours réussites et gloire. Et parfois, on passe par des temps aussi de dépouillement. Pourtant, Abraham, hein, c'est le père de notre foi. Hein. Les Juifs de l'époque de Jésus disaient aussi, hein, on a comme père Abraham. Ben, on voit que pour Abraham, c'était aussi un apprentissage. Et Charan, qui devait être juste une étape sur son cheminement, cette étape, pour finir, est devenue un lieu où il a demeuré. Et nous, dans nos vies, est-ce que des lieux de passage sont-ils devenus des lieux où nous séjournons? Alors nous risquons de retarder l'entrée dans les promesses de Dieu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Que nos habitudes, nos sécurités, nos repères ne nous empêchent pas d'entrer dans les nouvelles choses que le Seigneur en réserve pour nos vies. Que cela soit à un niveau personnel, familial, professionnel ou pour notre Église. Prenons peut-être un peu de temps en nous questionnant si dans nos vies, nous nous sommes peut-être installés dans un lieu qui n'était qu'une étape sur la route pour la terre promise. Hein? Peut-être dans nos vies, il y a des charanes où on est resté alors que Dieu nous voyait déjà plus loin. Ou peut-être que les choses ont été difficiles et puis qu'on a vu que plus loin ça allait être encore plus difficile, comme pour Abraham qui voyait que plus loin la terre elle devenait rocailleuse. Alors peut-être des fois on est dans des difficultés aussi, mais on s'est arrêté là et le Seigneur il veut nous relever. Et peut-être vous rappelez aussi qu'il y a un mercredi lors du groupe de prière, j'avais partagé un texte et puis une pensée d'Irénée de Lyon, l'évêque, qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. » Dieu veut qu'on puisse être debout, qu'on puisse marcher, entrer dans les nouvelles étapes que le Seigneur en réserve pour nos vies, même si c'est peut-être difficile, même si là où tu te trouves, peut-être tu as l'impression que tu n'as plus la force, mais le Seigneur, il est là et il veut t'accompagner et il veut te conduire. Ésaïe 54, je lis les versets 2 et 3. Élargis l'espace de ta tente, dit l'Éternel. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et le peuple des villes désertes. Allonge tes cordages, ne retiens pas. Élargis l'espace de ta tente et affermis tes pieux. Cette prophétie, elle s'est véritablement réalisée en Jésus-Christ, parce que Jésus a élargi la vision du salut pour tous les peuples des nations. Et en Jésus-Christ, des fois, le Seigneur, il veut aussi élargir l'espace de notre vie afin qu'on puisse entrer plus justement dans ses promesses. Amen. Beaucoup de Juifs de l'époque de Jésus étaient enfermés dans leur vision de la foi. Mais le Seigneur est venu pour élargir leur compréhension de la foi, qu'il puisse en être encore de même pour nous. Parfois, notre vision ou notre compréhension n'est que partielle. Et c'est la Bible elle-même qui le déclare. 1 Corinthiens 13, les versets 8 à 10. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Reconnaissons que nous ne savons pas tout, hein, même par rapport au Seigneur, et qu'on va encore découvrir des nouvelles choses. Je découvre encore des nouvelles choses avec le Seigneur. J'ai encore ma vision qui s'affine par rapport à la foi et par rapport à ce monde aussi. Et c'est quelque chose qui libère, ça rend la vie justement. Parce que des fois, si on a peut-être compris certaines choses, on est dans une certaine étape avec le Seigneur, ben, avec le temps, tout à coup, on va découvrir un aspect de plus, et ça va nous enrichir, ça va nous fortifier, et ça va nous permettre de continuer la marche avec notre Dieu. Reconnaissons que parfois, nous ne savons pas tout, nous connaissons en partie, et que le Seigneur désire élargir l'espace de notre tente. Je finirai avec deux versets dans Romains, le premier dans Romains 14, le verset 1, qui dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Que nous puissions accueillir celui qui est faible dans la foi, parce qu'on va en croiser dans nos chemins. Que ce soit ici dans cette église ou que ce soit ailleurs dans nos journées, des fois on va discuter avec des frères et des sœurs dans la foi, et puis peut-être on réalise pas, mais ils sont dans leur charane justement, ils sont dans leur situation où ils sont un peu bloqués, et le Seigneur voudrait les amener plus loin, mais que nous on puisse les accueillir, qu'on puisse les recevoir là où ils sont, et reconnaître que des fois, ben nous aussi on était faibles dans la foi, il y avait des choses qu'on avait cru comprendre. Et puis qu'en fait, on avait pris un mauvais chemin. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Et un deuxième passage, Romains 15, un petit peu plus loin, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Qu'on puisse s'accueillir les uns les autres. Accueillir, ce verbe, il y a cette pensée de recevoir avec considération, avec bonté, prendre avec amitié une personne, la prendre par la main, accueillir. Accueillir est non ceci dans un sens unique, hein, parce que la Bible nous indique les uns les autres. C'est réciproque. Qu'on puisse s'accueillir les uns les autres, là où on en est, et qu'ensemble on puisse marcher, et qu'ensemble on puisse apprendre encore à connaître mieux notre Dieu. Avec le cœur du Seigneur, comme le Christ nous a accueillis. Et quand le Christ nous a accueillis, c'est avec bonté, avec douceur, avec amour, mais aussi avec justice. Donc, ce n'est pas de n'importe quelle manière, et ce n'est pas d'être ouvert à tout vent, mais c'est de recevoir notre prochain selon la pensée du Christ. Amen. Alors, je vous propose qu'on finisse avec la prière. Et puis, moi, je ne connais pas les situations que tu traverses, comme tu ne connais peut-être pas certaines situations que je traverse aussi, mais Dieu, il les connaît. Il sait où tu es, il sait où tu te trouves, il sait si tu es en chemin le long de l'Euphrate, si tu es en train de lancer tes filets parce qu'il y a des beaux poissons qui semblent être là à ta disposition. Il sait si tu es sur la vallée rocailleuse et puis il est en train de te dire « persévère, tu es sur le bon chemin ». Il sait si tu es en train de fuir en Égypte parce que le lieu de ta promesse a été difficile et que tu as dû aller chercher du secours ailleurs. Il sait toutes ces choses-là. Hein? Mais j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu connais nos cœurs, tu connais les dispositions de nos âmes. Et nous voulons te servir et nous voulons marcher avec toi. Et nous voulons persévérer, Seigneur. Et parfois tu vois que le chemin est rempli de doutes, le chemin est rocailleux, le chemin est difficile. Et même des fois nous devons fuir devant le danger. Mais tu es là, à nos côtés. Et nous bénissons ton saint nom. Merci de venir relever l'âme qui est affaiblie ce matin. Merci de venir réconforter le cœur qui est peut-être dans la tristesse. Merci Seigneur de venir élargir aussi la vision de notre foi, parce que nous sommes tous en chemin et nous ne voulons pas rester bloqués dans nos charanes, Seigneur. Nous voulons encore avancer avec toi parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, parce que nous sommes des enfants de la terre promise. Et Seigneur, la gloire de l'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Que nous puissions être debout avec toi encore en cette heure. Viens, Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Viens nous donner peut-être des directions nouvelles. Que ta gloire puisse se manifester dans chacune de nos vies. Merci pour tout le chemin que nous avons pu faire jusqu'à ce jour avec toi. Jusqu'à ce jour, Seigneur, tu étais avec nous. Et demain, Seigneur, tu seras avec nous encore. Oui, Père éternel, nous voulons tourner nos regards vers toi et que tu puisses nous guider dans les choses que tu en réserves, dans les